Rudolf Steiner, Mythes et mystères égyptiens. Deuxième conférence faite à Leipzig le 2 septembre 1908. Nous avons tenté hier de considérer certaines correspondances dans les données de la vie physique et spirituelle de l'ère post-atlantéenne. Nous avons vu que la première période de civilisation de cette ère se répétera dans la dernière, la septième, que la civilisation perse se répétera dans la sixième période de civilisation, et que la période égyptienne que nous étudierons dans les jours à venir se répète dans nos vies et nos destinées, au cours de l'époque qui est la nôtre, c'est-à-dire la cinquième civilisation post-atlantéenne. Nous avons pu dire de la quatrième civilisation, l'époque gréco-latine, qu'elle occupe une place d'exception, qu'elle ne se répète pas. Ainsi, avons-nous pu esquisser de mystérieux liens entre les civilisations de l'ère post-atlantéenne, qui firent suite à l'ère de l'Atlantide, disparues à la suite d'immenses catastrophes causées par les eaux. Cette ère, succédant à l'Atlantide, aura aussi une fin. Au terme de notre cinquième grande époque post-atlantéenne, surviendront des catastrophes qui auront des effets similaires à celles de la période atlantéenne. La septième civilisation de la cinquième période s'achèvera par la guerre de tous contre tous. Ce sont des correspondances intéressantes qui ont été évoquées par certaines représentations. Quand nous les observons de plus près, elles éclaireront profondément la vie de notre âme. Aujourd'hui, nous devons placer devant notre regard spirituel encore d'autres répétitions, afin d'établir des bases sûres pour notre étude. Nous parcourons du regard de longues périodes du devenir de notre Terre et verrons que ces vastes horizons doivent nous intéresser très intimement. Avant de commencer, il faut encore faire une mise en garde contre les répétitions schématiques. Quand il est question de telles répétitions dans le domaine occulte, quand on dit par exemple que la première période de civilisation se répète dans la septième, la troisième dans la cinquième, cela peut facilement inspirer des personnes à la vive imagination combinatoire, qui se mettraient alors à appliquer de tels schémas à d'autres domaines. On pourrait s'en croire capable, et, de ce fait, on trouve dans de nombreux ouvrages traitant de théosophie des inepties de ce genre. Il faut donc rappeler avec fermeté que de telles combinaisons ne sont pas une donnée première. Seule a autorité la vision spirituelle, sans laquelle on fait fausse route. Il faut mettre en garde devant de telles combinaisons. Ce que nous pouvons lire dans le monde spirituel, la logique peut certes le comprendre, mais non point le trouver. Seule l'expérience permet d'en faire une approche vivante. Si nous voulons mieux comprendre les périodes de civilisation, nous devons acquérir une vue d'ensemble sur le devenir de la Terre, tel qu'il se présente au voyant qui peut tourner son regard spirituel vers les événements survenus dans un très lointain passé. Petite parenthèse, c'est en regardant effectivement dans un très lointain passé qu'à partir des bases de ce qui est vu dans ce lointain passé, peut permettre une projection de ce qui se produira dans l'avenir. Fermez la parenthèse. Si nous regardons rétrospectivement ce devenir de la Terre, nous pouvons nous dire qu'elle n'a pas toujours eu son apparence actuelle. Elle n'avait pas la base minérale solide d'aujourd'hui. Le règne minéral n'était pas comme aujourd'hui. Elle ne portait pas non plus les plantes et les animaux que nous connaissons. Et les hommes n'étaient pas dans un corps de chair comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas encore de système osseux. Tout cela ne s'est formé que plus tard. Plus le regard remonte dans le temps, plus nous nous rapprochons d'un état que, si nous avions pu l'observer depuis les lointains cosmiques, nous n'aurions vu que comme un brouillard, un fin nuage éthérique. Ce nuage aurait certes été beaucoup plus grand que notre Terre actuelle, car il aurait atteint et même dépassé les domaines des dernières planètes de notre système solaire. Tout cela aurait englobé une immense masse nébuleuse qui ne comportait pas seulement la matrice de notre Terre, mais toutes les planètes, même le Soleil. Et si nous avions pu explorer cette masse nébuleuse plus en détail, dans l'hypothèse où l'observateur aurait pu s'en approcher, elle nous serait apparue comme composée de fines particules éthériques. Quand nous regardons un vol de moucherons de loin, il nous apparaît comme un nuage, mais de près, nous voyons les petits animaux individuels. C'est à peu près comme cela que, dans un lointain passé, nous aurions vu la masse de la Terre, qui n'était alors pas matérielle au sens actuel, mais n'avait atteint qu'un degré éthérique de condensation. Cette formation terrestre se composait donc de points éthériques, auxquels était lié quelque chose de très particulier. Si nous continuons de supposer que l'œil humain ait pu voir ces points, il n'aurait pas pu percevoir ce que le clairvoyant, lui, percevait, ce qui se révèle aujourd'hui encore effectivement à son regard rétrospectif. Nous allons expliquer cela par une comparaison. Prenons une graine d'églantine, une graine parfaitement formée. Que voit celui qui l'observe? Il voit un corps qui est tout petit, et s'il n'a pas appris à quoi ressemble la graine de l'églantine, il ne pourra jamais trouver qu'un églantier peut en sortir. Il ne pourra jamais deviner cela à partir de la seule forme de la graine. Mais celui qui est doué d'une certaine clairvoyance pourra faire l'expérience suivante. La graine disparaîtra peu à peu devant ses yeux, tandis que paraîtra devant son œil clairvoyant une forme semblable à une fleur qui pousse de la graine sur un mode spirituel. Une forme réelle qui ne peut être contemplée qu'en esprit, se tient devant le regard clairvoyant. Cette forme est l'archétype de ce qui poussera plus tard à partir de la graine. Mais nous serions dans l'erreur si nous croyons que cette image est absolument semblable à la plante qui correspond à la graine. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une merveilleuse forme lumineuse, porteuse de courants et de formes complexes, et on pourrait dire que ce qui sort plus tard de la graine n'est qu'une ombre de cette merveilleuse forme lumineuse spirituelle que le clairvoyant peut voir dans la graine. Gardons cette image du clairvoyant face à l'archétype de la plante et revenons à notre terre originelle, aux différents points éthériques. Si le clairvoyant, comme dans l'exemple précédent, se plaçait devant un tel point de poussière éthérique de la substance originelle, il y verrait se développer une forme lumineuse, comme c'était le cas pour la graine, une forme superbe, qui n'est pas là en réalité, qui sommeille dans cette graine. Et qu'est-ce donc que cette forme perceptible au voyant lorsqu'il se retourne pour regarder cet atome terrestre originel? Qu'est-ce donc qui grandit là? C'est une forme qui est, elle aussi, différente de l'être humain physique, de même que l'archétype de la plante diffère de la plante sensible. C'est l'archétype de la forme humaine actuelle. À cette époque, la forme humaine sommeillait dans un état spirituel, dans la poussière éthérique, et il a fallu toute l'évolution terrestre pour que ce qui reposait là devienne l'homme actuel. De très nombreux facteurs durent y concourir, de même que la graine a besoin de beaucoup de choses, être mise en terre, recevoir les chauds rayons du soleil, pour parvenir à devenir une plante. Et nous comprendrons peu à peu comment s'accomplit ce chemin vers l'être humain si nous saisissons clairement tout ce qui est advenu au cours des périodes intermédiaires. Dans un passé très lointain, toutes les planètes étaient liées avec notre Terre. Mais nous n'allons prendre en considération que le Soleil, la Lune et la Terre, qui nous intéressent aujourd'hui tout particulièrement. Notre Soleil, notre Lune et notre Terre n'étaient pas isolés en ce temps-là. Ils étaient réunis. Si nous mélangions ces trois corps actuels comme pour en faire une bouillie dans un chaudron cosmique, et que nous imaginions cette mixture comme un corps cosmique unique, nous obtiendrions l'état originel de la Terre. Soleil plus Terre plus Lune. Naturellement, l'homme ne pouvait y vivre que sous une forme spirituelle. Il ne pouvait en être autrement, parce que ce qui est dans le Soleil actuel était lié à la Terre. Et ce corps cosmique, notre Terre, conserva très très longtemps en lui le Soleil et la Lune. Elle resta ainsi unie à toutes les entités et les forces qui y étaient liées. En ces temps-là, l'être humain n'était encore présent dans l'atome originel humain que sous une forme spirituelle. Cela ne changea qu'à l'époque où un événement très important se produisit dans notre évolution cosmique. Lorsque le Soleil se détacha pour devenir un corps indépendant, quittant Terre et Lune. Nous avons alors une dualité à la place de ce qui constituait auparavant une unité. Deux corps cosmiques, le Soleil d'un côté, la Terre plus la Lune de l'autre côté. Pourquoi cela est-il arrivé? Tout ce qui arrive a naturellement un sens profond. Nous le comprendrons si nous trouvons dans notre observation rétrospective qu'il n'y avait pas seulement des hommes qui vivaient alors sur la Terre, mais que d'autres êtres de nature spirituelle leur étaient liés. Il n'était certes pas perceptible pour des yeux physiques, mais était présent, aussi réellement présent que les êtres humains et les autres êtres physiques. Ainsi sont liés par exemple à notre monde des êtres qui vivent à la périphérie de la Terre et que l'ésotérisme chrétien appelle des anges, angeloi. Nous pouvons au mieux nous représenter ces entités si nous pensons qu'un tel être se tient au degré d'évolution où l'homme sera quand la Terre aura achevé son évolution. Aujourd'hui, ces êtres sont déjà au stade que l'homme atteindra quand il parviendra au but de son évolution terrestre. Les archanges, archangeloi ou esprits du feu, occupent une place encore supérieure. Ce sont des entités que nous pouvons apercevoir quand nous dirigeons notre regard spirituel sur les affaires qui concernent des peuples entiers. Ces affaires sont dirigées par des entités que l'on appelle archanges ou archangeloi. Une classe d'entités encore supérieure est constituée par les principautés, archées ou esprits de la personnalité. Nous les trouvons quand nous parcourons du regard des époques entières, que nous survolons de nombreux peuples, contemplant leurs relations et leurs oppositions, et saisissons ce que l'on appelle communément l'esprit du temps. Si l'on regarde par exemple notre époque, elle est guidée par des êtres supérieurs que l'on appelle principautés ou archées. Puis, il y a des entités encore supérieures que l'on nomme dans l'ésotérisme chrétien puissance, exousiaï ou esprit de la forme. Ainsi, d'innombrables entités sont liées à notre Terre. Elles s'élèvent de degré en degré au-dessus de l'être humain. Si nous commençons par le minéral et de là nous élevons à la plante, de la plante à l'animal puis à l'homme, ce dernier est l'être physique le plus élevé. Mais les autres êtres sont là, ils sont entre nous, ils nous pénètrent. Au début de l'évolution terrestre dont nous venons de parler, quand la Terre était un brouillard originel émergeant du sein de l'éternité, tous ces êtres étaient liés à la Terre, et le clairvoyant percevait la forme humaine pénétrée d'autres êtres. Ce sont ceux que nous avons nommés et des êtres encore supérieurs comme les puissances, les dominations, les trônes, les chérubins et les séraphins. Tous ces êtres étaient intimement liés à cette puissante poussière éthérique, chacun se trouvant à un degré d'évolution différent. Certains ont une majesté dont l'homme ne peut avoir idée. D'autres lui sont plus proches. Comme ces entités avaient un niveau d'évolution différent, elles ne pouvaient pas poursuivre leur développement de la même manière que l'homme. Il fallut qu'un lieu leur soit dévolu. Parmi les hautes entités, certaines auraient énormément souffert si elles étaient restées liées aux êtres inférieurs. Elles s'en séparèrent donc. Elles prirent les plus fines substances du brouillard et établirent leur siège dans le soleil. Elles s'en firent un ciel. C'est là qu'elles trouvèrent le rythme juste pour leur évolution. Si elles étaient restées dans les substances inférieures qu'elles avaient laissées dans la terre, elles n'auraient pu poursuivre leur évolution. Cette dernière aurait été entravée comme par un poids de plomb. Nous voyons par là que ce qui advient sur le plan matériel n'a pas uniquement des causes physiques, comme la fission de la substance cosmique, mais est impulsé par les forces des entités qui ont besoin d'un séjour pour leur évolution. Cela advient parce qu'elles doivent se construire leur résidence cosmique. Il nous faut insister sur cet aspect des causes spirituelles. Ainsi, l'homme reste-t-il sur la Terre-Lune, et avec lui d'autres êtres de la hiérarchie inférieure, comme les anges et les archanges, et des entités qui se trouvaient à un rang inférieur à lui. Seule une entité puissante, qui était en réalité déjà mûre pour partir sur le soleil, s'est sacrifiée et a partagé le destin de la Terre-Lune. C'est l'entité que l'on a nommée plus tard Yahvé ou Jéhovah. Elle a quitté le soleil et pris ensuite la tête de la vie terrestre lunaire. Nous avons donc deux résidences. Le soleil, avec les êtres sublimes, dirigé par une entité particulièrement élevée que les gnostiques, par exemple, tentèrent de se représenter sous le nom de Pléroma. Nous devons nous représenter cet être comme le régent du soleil. Yahvé dirige la Terre-Lune. Nous voulons garder en conscience tout spécialement ce fait que les esprits les plus nobles, les plus élevés, sont partis avec le soleil et ont abandonné la Terre-Lune. La Lune ne s'était pas encore détachée de la Terre, elle y était encore unie. Comment peut-on ressentir ce processus cosmique de séparation du Soleil d'avec la Terre? Il faut avant tout ressentir le Soleil avec ses habitants comme l'élément le plus noble, le plus pur, le plus élevé ayant été autrefois lié à la Terre. Et ensuite, il faut ressentir cette Terre-Lune par opposition, comme le constituant inférieur qui s'était alors formé. Son état était encore plus grossier que celui de notre Terre actuelle. En effet, il y eut un moment ultérieur dans l'évolution où la Terre se libéra de la Lune, et avec elle des substances les plus grossières, qui auraient empêché l'homme de poursuivre son évolution. Il fallut que la Terre rejette la Lune. En attendant, notre Terre connut sa période la plus sombre, la plus terrible. Ce qui portait les nobles germes d'évolution était tombé sous la coupe de forces terribles. L'homme ne pouvait avancer qu'en rejetant les épouvantables conditions d'existence liées à la Lune. Nous devons ressentir qu'un principe lumineux, un principe sublime, le principe du Soleil, s'oppose au principe des ténèbres, au principe de la Lune. Si on avait alors perçu par clairvoyance le soleil qui s'était isolé, on aurait vu les êtres qui voulaient l'habiter. Mais on aurait perçu encore autre chose. Ce qui s'était ainsi isolé comme soleil ne serait pas seulement apparu comme un ensemble d'êtres spirituels. Il ne se serait pas montré non plus sous une forme éthérique, car cela faisait partie des éléments plus grossiers. Il se serait montré comme quelque chose d'astral, une puissante aura de lumière. Ce que l'on aurait ressenti comme principe lumineux, on l'aurait vu comme une aura lumineuse dans l'espace cosmique. Mais comme la Terre avait laissé sortir cette lumière, elle avait pris soudain un aspect plus dense, bien que pas encore totalement minéral. Deux principes s'opposaient alors, un bon et un mauvais, un lumineux et un obscur. Considérons à présent l'apparence de la Terre avant qu'elle n'expulse la Lune. nous aurions une représentation absolument fausse si nous nous l'imaginions comme notre Terre actuelle. Le centre de la Terre était alors une masse de feu bouillonnante. Ce centre serait apparu comme un noyau de feu entouré de gigantesques formations aqueuses, différentes de notre eau actuelle en ce sens qu'elles contenaient les métaux sous forme liquide. L'homme y était partout présent, mais sous un tout autre aspect qu'aujourd'hui. Telle était la Terre lorsqu'elle expulsa la Lune. Avant tout, on ne trouvait à cette époque pas d'air sur la Terre. Elle n'en contenait pas. Les êtres qui y vivaient n'avaient pas besoin d'air. Ils avaient un tout autre système respiratoire. L'homme était une sorte de poisson amphibien, fait de matière molle et fluide. Ce qu'il inspirait n'était pas de l'air, mais ce qui était contenu dans l'eau. Telle était à peu près l'apparence de la Terre à cette époque. Nous devons ressentir cette période comme représentant un stade inférieur à celui de notre Terre actuelle. Il devait en être ainsi. L'homme n'aurait jamais pu trouver le juste rythme ni les moyens nécessaires à son évolution si le Soleil et la Lune ne s'étaient séparés de la Terre. Avec le Soleil dans la Terre, tout serait allé trop vite, et tout serait allé beaucoup trop lentement avec les forces qui agissent à présent sur la Lune. Lorsque la Lune se retira de la Terre au cours d'immenses catastrophes, se prépara peu à peu ce que l'on pourrait appeler la séparation d'une enveloppe aérienne et de l'élément eau. L'air n'était pas du tout l'air d'aujourd'hui, il contenait encore toutes sortes de vapeurs. Mais l'être qui se préparait progressivement n'était qu'une ébauche de l'homme actuel. Nous décrirons cela encore plus précisément. Nous avons donc découvert l'être humain dans trois milieux. D'abord, l'état où il vivait en union avec la Terre, Soleil, Lune, et toutes les entités supérieures dans un corps cosmique unique. Il se présentait alors au regard clairvoyant comme nous l'avons décrit. Puis, nous l'avons trouvé vivant dans des conditions extrêmement défavorables, sur la Terre-Lune. S'il était resté dans cette situation, il serait devenu un être très méchant, terriblement sauvage. Lorsque le Soleil se fut écarté, nous avons l'opposition Soleil d'un côté, Terre-Lune de l'autre. Le Soleil resplendissait, grande et puissante aura solaire, dans l'espace, dans sa gloire rayonnante. De l'autre côté, restait la Terre-Lune avec toutes les forces inquiétantes qui entraînaient également vers le bas les éléments plus nobles de l'être humain. Ainsi est née la division en deux. Puis vient la division en trois. Le Soleil reste ce qu'il est, mais la Terre se sépare de la Lune. Les substances les plus grossières sont expulsées. Mais l'homme reste sur la Terre. Quand il regarde cette troisième période, l'homme ressent les forces comme un principe triple. Il se demande d'où viennent ces forces. Dans la première période, l'homme était encore lié à toutes les forces sublimes du Soleil. Les forces qui se développèrent au cours de la deuxième période partirent ensuite avec la Lune. L'homme ressentit cela comme une libération, mais il se souvenait de la première période, celle où il était encore uni aux êtres solaires. L'homme avait fait l'expérience de la nostalgie. Il se ressentait comme un fils rejeté. Et avec les forces qui étaient parties avec le Soleil et la Lune, avec ces forces, il pouvait se ressentir comme un fils du Soleil et de la Lune. Notre Terre a suivi ainsi une évolution allant de l'unité à la triade Soleil-Terre-Lune, en passant par un stade de dualité. On désigne l'époque où la Lune s'est détachée, permettant ainsi à l'être humain d'évoluer, comme l'ère lémurienne. Elle s'acheva par d'énormes catastrophes provoquées par le feu, à la suite desquelles notre Terre entra dans un état qui pouvaient offrir à l'ancienne Atlantide les conditions nécessaires à son développement. Les premières ébauches de continents émergeaient des eaux. C'était bien longtemps après le départ de la Lune, qui permit à la Terre de se développer enfin sous cette forme. Dans l'Atlantide, l'homme était encore tout autre qu'aujourd'hui. Nous y reviendrons. Mais c'était déjà une masse molle, flottante, qui se mouvait et qui impulsait l'enveloppe d'air. Le système osseux ne se développa que très progressivement. Au milieu de la période atlantéenne, l'homme a atteint un stade où il a déjà une apparence assez semblable à la nôtre. Mais il a encore une conscience clairvoyante. Notre conscience actuelle ne s'est en effet développée qu'à des époques bien ultérieures. Et si nous voulons comprendre l'homme de cette époque, il nous faut considérer cette conscience clairvoyante. Nous la comprendrons mieux en la comparant à la conscience actuelle. Aujourd'hui, l'homme perçoit le monde du matin au soir par les sens. Il reçoit continuellement, par son activité sensorielle, des impressions visuelles et auditives. Avec la tombée de la nuit, ce monde sensible sombre dans une mer d'inconscience pour l'être humain. Pour l'occultiste, il ne s'agit en réalité nullement d'inconscience, mais seulement d'un degré inférieur de conscience. Nous voulons distinguer nettement cette actuelle double conscience de l'homme, une claire conscience de jour et une conscience de sommeil ou de rêve. Il n'en était point ainsi dans les premiers temps de l'Atlantide. Considérons l'alternance veille-sommeil dans cette première période. L'homme plongeait également durant un certain temps dans son corps physique, mais il ne percevait pas les objets avec les contours précis qu'ils ont aujourd'hui. Imaginons que nous sortions par un jour d'épais brouillard et que nous voyons le soir les réverbères entourés d'une aura de lumière. Nous avons une image approximative de la conscience objective de l'Atlante. Pour les hommes de ce temps-là, tout était plongé dans le brouillard. Telle était la vision diurne. La nuit s'offrait une toute autre vision, différente, elle aussi, de celle d'aujourd'hui. Quand l'Atlante sortait de son corps, il ne sombrait pas dans l'inconscience, mais se trouvait dans un monde d'entités divines et spirituelles, d'êtres doués d'un jeu qu'il percevait autour de lui comme ses compagnons. Autant l'homme actuel ne voit pas ses êtres durant la nuit, autant plongeait-il en ces temps-là dans une mer de spiritualité, où il percevait en fait les êtres divins. Pendant la journée, il était le compagnon des règnes inférieurs, la nuit, celui des entités supérieures. L'homme vivait donc dans une conscience de l'esprit, même si elle était crépusculaire. Bien qu'il n'eût point conscience de soi, il vivait parmi ces entités divines spirituelles. À présent, considérons les quatre périodes de notre évolution terrestre. Commençons par celle où le Soleil et la Lune étaient encore liés à la Terre. Plaçons cette époque devant notre âme. Nous devons nous dire, les êtres de cette Terre sont en réalité purs, idéaux. L'homme n'y est présent que comme germe éthérique, visible seulement au regard spirituel. Puis nous parvenons à la seconde époque. Nous voyons le Soleil devenu un corps isolé, visible comme aura, et la Terre-Lune, un monde du mal. Nous arrivons ensuite à une troisième période. La Lune se sépare aussi de la Terre, et sur la Terre agissent les forces qui sont le résultat de cette triade. Nous parvenons ensuite à une quatrième période. L'homme y est déjà un être du monde physique qui lui paraît nébuleux. Dans son sommeil, il est encore le compagnon d'entités divines. C'est la période où l'Atlantide disparaît dans de gigantesques catastrophes provoquées par les eaux. Faisons un pas de plus jusqu'à l'être humain de l'époque post-atlantéenne. Son évolution a donc duré des millénaires. Nous le voyons tout d'abord dans les premières périodes de civilisation de l'époque post-atlantéenne. La civilisation indienne, la civilisation perse, celle de l'Égypte, de la Chaldée et de Babylone. Puis celle de la Grèce et de Rome. Et enfin, la cinquième, la nôtre. Qu'est-ce que l'homme avait perdu avant toute chose? Ce qu'il avait perdu, nous pouvons nous l'imaginer si nous regardons la description de l'Atlantide. Essayons de nous représenter l'état de sommeil de l'Atlante. Quand l'homme était encore le familier du monde spirituel et familier des dieux, il percevait réellement un monde d'esprit. Or, cela, l'homme le perdit après la catastrophe atlantéenne. Sa vision nocturne s'assombrit. En revanche, sa conscience diurne s'éclaircit, et le moi, le je, se développa. Telles étaient ses conquêtes. Mais les anciens dieux avaient disparu pour lui. Ils n'étaient plus que des souvenirs, et tout ce que l'âme avait vécu n'était dans la première période post-atlantéenne que souvenirs, souvenirs du commerce d'autrefois avec ses entités divines. Or, nous savons que les âmes restent les mêmes, qu'elles se réincarnent. De même que nos âmes étaient déjà présentes dans les anciens temps de l'Atlantide, où elles habitaient déjà des corps, elles étaient aussi là lorsque la lune et le soleil se séparèrent de la terre, et également dans les tout premiers temps. L'homme était déjà dans la poussière éthérique, et les cinq périodes de civilisation post-atlantéenne, dans leur conception du monde, dans leur religion, ne sont rien d'autre que les souvenirs des anciens âges de la terre. La première, la civilisation de l'Inde ancienne, développa une religion qui apparaît comme un nouveau flamboiement intérieur, une répétition intérieure des représentations et des sentiments de la toute première période où le soleil et la lune étaient encore unis à la terre, où ces êtres sublimes du soleil habitaient encore sur la terre. Nous pouvons penser qu'il fallut en éveiller une représentation sublime. Et la conscience indienne embrassa en une grande unité l'esprit lié à tous les anges et les archanges, à tous les esprits, dieux et entités supérieures du premier état de la terre, du brouillard originel, en une haute individualité portant le nom de Brahme, Brahma. En esprit, la première période de civilisation de l'ère post-atlantéenne répéta ce qui s'était passé. Elle n'est rien d'autre qu'une répétition de la première période terrestre dans une vision intérieure. Considérons à présent la seconde période de civilisation. Nous avons la conscience religieuse de la civilisation de l'ancienne Perse, dans le principe de la lumière et des ténèbres. Là, les grands initiés opposèrent deux entités, dont ils voyaient l'une personnifiée dans le soleil, l'autre personnifiée dans la lune. Ahura Mazda, l'aura de lumière, Ormuzd, est l'être que les Perses honoraient comme le dieu suprême. Ahriman est le méchant esprit, le représentant de tous les êtres de la terre-lune. La religion des Perses est un souvenir de la seconde période terrestre. Et dans la troisième période de civilisation, l'homme devait se dire: je porte les forces du soleil et de la lune, je suis un fils du soleil et un fils de la lune. Toutes ces forces du soleil et de la lune se présentaient comme un père et une mère. Si nous retrouvons l'unité des origines dans la conception des Indiens, si nous voyons la dualité qui suivit le départ du soleil reflétée dans la religion des Perses, nous retrouvons dans les conceptions religieuses des Égyptiens, des Chaldéens, des Assyriens, des Babyloniens, la trinité de la troisième époque terrestre qui suivit le départ du soleil et de la lune. Cette trinité apparaît dans toutes les religions de la troisième période. Elle est représentée en Égypte par Osiris, Isis et Horus. Mais ce que l'homme avait vécu dans sa conscience, comme compagnon des dieux, au cours de la quatrième période terrestre, la période atlantéenne, le souvenir en ressurgit lors de la période de la civilisation gréco-latine. Les dieux des Grecs ne sont rien d'autre que les souvenirs des dieux qui accompagnaient l'homme au temps de l'Atlantide, ces dieux qu'il avait perçus par clairvoyance comme formes éthériques lorsqu'il sortait de son corps physique la nuit. De même que l'homme voit aujourd'hui les objets extérieurs, il a vu autrefois Zeus, Athéna, etc. Pour lui, c'était des personnages véritables. Ce que l'Atlante vécut et ressentit dans son état clairvoyant revient pour les hommes de la quatrième époque post-atlantéenne dans le Panthéon. De même que l'époque égyptienne fut un souvenir de la Trinité lémurienne, l'expérience de l'Atlantide resta comme souvenir dans la hiérarchie des dieux grecs. En Grèce et dans le restant de l'Europe, c'étaient les mêmes dieux que l'Atlante avait vus, mais qui portaient d'autres noms. Ces noms ne sont pas pure invention. Ce sont les noms des mêmes êtres qui cheminaient à côté de l'homme lorsqu'il quittait son corps physique d'Atlante. Nous voyons ainsi comment les périodes du devenir cosmique trouvent leur expression symbolique dans les conceptions religieuses des différentes civilisations post-atlantéennes. Ce qui se déroulait pendant le sommeil à l'époque atlantéenne revécut dans la quatrième civilisation. Nous sommes dans la cinquième époque post-atlantéenne. De quoi pouvons-nous nous souvenir à présent? La première civilisation, celle des anciens Indiens, pouvait se représenter la première période terrestre, les Perses la seconde, le principe du bien et du mal. Les anciens Égyptiens se représentaient la troisième époque dans sa structure trinitaire. La civilisation grecque, l'ancienne civilisation germanique, la civilisation romaine avaient leur Olympe. Elles se souvenaient des figures divines de l'Atlantide. Puis vint la période suivante, la cinquième. De quoi peut-elle donc se souvenir? Eh bien, de rien. C'est la raison pour laquelle elle est sous bien des aspects une époque sans Dieu, destinée par là à regarder non en direction du passé, mais vers l'avenir. La cinquième époque, la nôtre, doit tourner ses regards vers l'avenir où tous les dieux doivent reprendre vie. Cette réunification avec les dieux a été préparée à l'époque où surgit la force du Christ, seul capable d'agir assez intensément pour rendre à l'homme une conscience divine. Les dieux de la cinquième époque ne peuvent être des souvenirs. Les hommes de cette époque doivent tourner leur regard vers l'avenir. C'est seulement alors que la vie redeviendra spirituelle. Au cours de cette cinquième période post-atlantéenne, la conscience doit devenir apocalyptique. Rappelons que nous avons vu hier les liens des différentes civilisations de l'époque post-atlantéenne. Aujourd'hui, nous avons vu comment le devenir cosmique se reflète dans les religions de ces grandes civilisations. Notre cinquième époque se tient au milieu du monde. C'est pourquoi il lui faut regarder vers l'avenir. Il lui faut concevoir tout d'abord le Christ dans sa plénitude, car nos âmes sont profondément imbriquées dans des rapports mystérieux. Nous verrons comment la répétition de la période égyptienne dans notre cinquième civilisation nous donne des clés pour savoir comment nous tourner réellement vers l'avenir.